Donc moi, je m'appelle Françoise Bock, je suis enseignante chercheure en sciences du langage à Grenoble et je remercie Madame Christine Gobert-Macon de m'avoir invitée pour vous présenter les travaux qu'on publie en ce moment dans le champ et qui peuvent peut-être alimenter votre réflexion autour de la dimension linguistique, puisque, comme Madame Gobert-Macon l'avait dit, comme j'ai pu le lire dans le référentiel, cette dimension est très présente dans le BTS que vous allez rénover, comme dans la plupart d'ailleurs des formations, hein, puisque comme on l'a vu à l'instant, c'est vraiment une préoccupation majeure et très partagée de permettre aux étudiants qui sont dans nos formations de bien savoir communiquer à l'écrit et à l'oral, de manière à pouvoir ensuite faire face aux tâches rédactionnelles qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus variées, quel que soit le secteur professionnel envisagé aujourd'hui. Donc, communiquer par écrit, dans le référentiel, on a des choses qui correspondent à ce qu'on peut faire dans d'autres formations universitaires, hein, appréhender et réaliser un message écrit. Donc, moi, je lis là, lire et produire de l'écrit, respecter les contraintes, c'est-à-dire produire de l'écrit en respectant les normes, savoir synthétiser des informations et savoir argumenter. La communication à l'oral, comme le disait la personne qui précédait, c'est quelque chose qui pose un petit peu moins de problèmes en général, mais qui en pose quand même et qu'il faut effectivement travailler également. Alors là, mon exposé, je vais le faire en deux temps. Mon but, c'est de vous présenter donc les travaux, les produits qu'on mène en ce moment, qu'on élabore en didactique de l'écrit ou en littératie avancée, tout dépend, ou en littératie universitaire, tout dépend de la manière dont on intitule ce courant-là. Et puis, les solutions qu'on a développées localement à Grenoble et qui sont de plus en plus utilisées en formation d'enseignants. Alors, on a fait une grande analyse de besoins dans le cadre d'un projet auprès de d'acteurs professionnels, à la fois dans les entreprises et dans les établissements supérieurs. On a mené 99 entretiens. Et ce qu'il en ressort, c'est que la demande est forte pour construire des formations qui soient vraiment adaptées à des publics adultes et qui soient également au-delà du développement de la pure compétence orthographique. Puisqu'en général, ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, ce sont des logiciels qui sont utilisés en entreprise ou dans les établissements supérieurs, mais qui déçoivent assez rapidement parce que finalement, on a l'air de dire que savoir bien rédiger, c'est savoir bien orthographier. Or, la rédaction, ça va bien au-delà de l'orthographe. Il faut bien entendu travailler cette composante-là, mais ce n'est pas la seule. Donc, l'idée, c'est de travailler l'ensemble des dimensions des compétences rédactionnelles, à savoir la syntaxe, le lexique, la ponctuation, mais aussi, comme on l'a vu dans votre référentiel, savoir argumenter, savoir synthétiser, etc. Donc, ce n'est pas que l'orthographe. Et puis, ce qu'on a vu aussi auprès de ces acteurs-là, c'est qu'il y avait un réel besoin de formations hybrides et pas simplement des formations à distance. Notamment dans les universités, nous, on les a expérimentées. Ces logiciels qui permettent de progresser à l'écrit, donc en l'occurrence, souvent juste en orthographe, et qui ne sont pas très performants, c'est-à-dire que les étudiants, au bout d'un moment, lâchent quand il n'y a pas d'accompagnement en présentiel. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler en hybride, à la fois en présentiel, à la fois, comme on va le voir, avec du tutorat à distance, et puis en autonomie également, même si le tout à distance coûte beaucoup moins cher pour tout le monde. Alors, on a fait aussi dans d'autres travaux une enquête sur les besoins réels des publics adultes à l'écrit. On trouve des choses qui sont très transversales, qui vont sans doute vous parler. L'accord. Alors là, je parle vraiment de linguistique au niveau micro. Là, hein. L'accord entre le déterminant et le nom, l'accord entre le sujet et le verbe, ce sont des choses qui posent problème, même aux étudiants qui sont avancés. Hein. Nous, on a des enseignants qui viennent se former en Master 2 chez nous et pour lesquels ce n'est pas encore complètement évident, ces choses-là. Donc, les besoins, ils sont très répandus. Alors, les homophones grammaticaux, les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, etc. Dès qu'on rentre dans les pronoms relatifs complexes, ça pose beaucoup de problèmes. Les anaphores, c'est la manière de reprendre un terme qui a déjà été cité dans le texte. où en particulier le « i » et le « en » posent problème, et puis des phénomènes de co-référence. Là, je vous ai donné un exemple pour qu'on comprenne ce que je peux dire là. Arrivé très tard en raison de la grève des trains, l'hôtel n'a pas pu garder sa réservation. Ça ne fonctionne pas parce que le sujet de arriver, c'est pas l'hôtel. Et ça, ce sont des erreurs que les étudiants, même avancés, ont bien du mal à percevoir. Des besoins, donc, non seulement, comme on vient de le voir, en orthographe et en syntaxe, mais aussi en ponctuation et en lexique. On se rend compte qu'il faut vraiment développer chez nos étudiants la compréhension fine de termes courants abstraits, de termes comme stigmatisé, plausible, polémiqué, divergent, etc. Donc, ces termes-là, on sent que la compréhension est très approximative. Donc, et ce n'est pas du tout évident à travailler en formation, ce genre de choses. Dès qu'on travaille sur le lexique, avec l'orthographe, c'est plus facile, il y a des règles, c'est bien établi, il y a un référentiel. Avec le lexique, c'est une autre chose. On a besoin vraiment de prendre appui sur des travaux spécialisés dans la description de ces problèmes-là. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait, chez les étudiants, développer la capacité à inférer le sens. C'est-à-dire, quand on ne comprend pas un terme, on doit pouvoir l'inférer à partir du contexte. C'est quelque chose qui s'entraîne, qui s'apprend. Et puis, les signes de ponctuation sont souvent sous-exploités, en particulier la virgule, qui est très utile dans les textes académiques, dans les textes professionnels, et qui est souvent méconnue des étudiants. On a testé, en fait, on a élaboré ça à partir d'une enquête sur 400 productions écrites d'étudiants de licence. Alors, idem pour ce qui est cette fois, donc plus au niveau micro, mais plus au niveau macro, de la synthèse et de l'argumentation. On se rend compte qu'il y a des efforts encore à faire sur le fait de rester fidèle par rapport à un point de vue qui est exprimé dans un document source, que ce document soit écrit ou oral. Quand on demande à un étudiant de faire un petit compte-rendu écrit de ce qu'il a entendu ou de ce qu'il a lu, la fidélité par rapport au texte source est souvent à travailler encore. Et comme ça fait partie, j'ai l'impression, de votre référentiel, je pense que vous avez raison de vouloir développer ça. Et idem, autre travers qu'on rencontre souvent, c'est la difficulté à rester dans le point de vue de la personne sans interférer avec ses propres arguments. Il y a du mélange qui se fait malgré parfois des consignes strictes là-dessus. Alors, d'autres travaux ont mis aussi en avant les besoins psychologiques de ces étudiants. Peut-être que vous retrouverez votre public, je ne sais pas. L'idée que les étudiants qui sont en difficulté à l'écrit, enfin, on a fait une enquête auprès de ces étudiants-là, mais aussi d'ex-décrocheurs et de salariés en entreprise qui étaient en stage de formation pour développer leurs compétences rédactionnelles. Donc, tous ces publics-là avaient des difficultés à l'écrit. Et on se rend compte que l'écrit, c'est vraiment identitaire. C'est-à-dire que quand on a des difficultés à l'écrit, on a des difficultés à tous les niveaux. Et l'idée, c'est, à travers ces formations-là, de restaurer son image de scripteur, d'écrivain, voire de la construire quand elle a été peu élaborée. Et puis, dominer la langue, dominer l'écrit, c'est dominer la langue et donc avoir du pouvoir. Et c'est l'idée aussi de retrouver confiance en ses pouvoirs mentaux, c'est-à-dire que quand on est en situation de production de texte, on se pose plein de questions. En tout cas, on doit s'en poser et on doit savoir y répondre. Et ces personnes-là, souvent, ne savent pas. J'étais il y a quelque temps là, en formation avec des salariés d'une grosse entreprise qui était en difficulté. Il y en avait un qui me disait « Mais moi, j'ose pas, il travaille dans la restauration rapide, et j'ose pas mettre une affiche « toilette bouchée » parce que je ne sais pas comment écrire « boucher », un directeur de restaurant. » Donc voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent poser grandement problème à ces personnes-là. Donc l'idée, c'est d'arriver à contrôler ces choix linguistiques, de savoir que « toilette bouchée », non, ce n'est pas un verbe à l'infinitif, c'est un participatif employé comme adjectif, donc je mets EES. Voilà, se poser des questions et savoir y répondre. Et puis, entrer dans un apprentissage où on a choisi, c'est ce que disait aussi la collègue tout à l'heure, où on a choisi son apprentissage, on a choisi de progresser, tenir les rênes de son apprentissage et non pas le subir. Donc, nos choix pédagogiques, au vu de ces différents travaux, on a monté des formations qu'on est en train de tester vraiment auprès du public divers. Et ces formations, elles ont pour caractéristique, d'une part, donc d'assurer du présentiel, même minimalement, ça peut être peut-être 3 ou 4 séances en présentiel, mais il les faut pour lancer la dynamique d'écriture. Puis on fait un petit test de positionnement aussi au départ pour bien cerner les besoins. Et on traite collectivement cette dimension linguistique avant de lancer les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, dans le travail d'écriture. Donc le travail d'écriture, il se fait à distance, il est tutoré, c'est-à-dire qu'on lance des tâches d'écriture en fonction des besoins de ces publics-là. Là, ce sera, j'imagine, dans le cadre du BTS, des écrits professionnels, des écrits que vous avez identifiés comme étant ceux qui peuvent attendre ces jeunes à la sortie de leur formation. Et l'idée, c'est d'avoir des navettes avec l'enseignant qui met en marge de ses écrits des suggestions pour améliorer l'écriture. Et il y a une navette qui se fait avec l'étudiant qui, de ce fait, par le jeu de la réécriture, qui est fondamental dans la progression, peut arriver à un écrit de qualité. Et enfin, en autonomie, à condition qu'il y ait justement ces séances en présentiel qui peuvent lancer cette dynamique, on a les modules d'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe à distance, parce que ça peut se faire à distance. Et on est en train de monter des modules qu'on appelle les modules gramme-ortho. Alors ces modules gramme-ortho, ils ont été créés par deux pédagogues, Maurice et Christiane Laurent, à partir d'un courant qui s'appelle la grammaire en couleur, qu'ils ont développé à partir des principes, je ne sais pas si vous connaissez ça, de Caleb Gattegno. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller sur le site Une éducation pour demain. Donc c'est une association avec laquelle l'Université de Grenoble est partenaire. Ils ont monté des modules destinés à des publics scolaires, donc de 8 à 16 ans, la version A. Et nous, à Grenoble, dans notre laboratoire, on monte la version B pour des publics adultes, puisqu'on considère, encore une fois, que pour ces publics-là, il faut absolument que les énoncés correspondent à des univers professionnels. Les phrases utilisées dans les exercices puissent parler à ces personnes-là. Et on a eu cette année un financement de l'université pour mener à bien ce travail, un financement de l'IDEX. Alors ces modules, au final, il y en aura 10. Pour l'instant, il y en a 4,5. Là. Le cinquième va sortir très, très vite. J'ai le temps de faire une petite présentation. Je me rends. D'accord. Oui, j'ai combien de temps? 5 minutes, ok. Donc voilà comment ça se présente. Là, vous voyez, à ces modules, j'ai inscrit il y a très peu de temps des doctorants que j'ai en formation. Donc vous voyez, ces besoins-là, ils traversent vraiment tous les niveaux scolaires, du primaire jusqu'au doctorat. Des doctorants en natif, francophones. Enfin, francophones et non francophones, mais aussi francophones. Alors, un exemple. L'idée, en fait, de ces modules, moi, ce qui fait que j'ai eu envie de travailler à leur adaptation pour des publics adultes, c'est qu'ils adoptent une démarche qui est inductive. C'est-à-dire, on fait vraiment appel à l'intelligence du public et non pas comme dans d'autres produits qui circulent en ce moment sur le marché, où on a la règle et puis les exercices derrière. Là, on essaie, par la démarche inductive, de permettre aux apprenants, avec l'observation, de construire les règles de fonctionnement de la langue. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, il y a toujours une phase observée, où là, l'étudiant ne fait qu'observer.
Des maisons.
Vous entendez ?
Une ville. Une ville moderne. Une grande ville. Des hommes célibataires. De jeunes hommes.
Voilà, ça c'est la phase d'observation. Et ensuite, c'est à l'étudiant de jouer. Donc, je vous mets un exemple.
Un sport individuel.
Donc là, c'est à moi de cliquer. Un sport individuel.
De nouveaux sports.
Etc. En fait, l'idée, c'est d'arriver à reconnaître dans un premier temps. Donc, on est vraiment là au tout début de l'apprentissage. C'est le module 1, l'activité 1. Simplement pour remettre un peu les pendules à l'heure. Parce que je vois des étudiants que j'ai souvent en formation qui ont beaucoup d'étiquettes grammaticales dans la tête, mais qui sont incapables d'y mettre du sens. Donc là, l'idée, c'est d'abord de mettre du sens en faisant intuitivement pointer des mots dans les bonnes cases pour après pouvoir coller une étiquette dessus. C'est-à-dire que ça ne sert à rien à un étudiant de lui dire « il faut que tu accordes l'adjectif avec le nom » si l'étudiant n'a aucune idée de ce que c'est qu'un adjectif. Et croyez-moi, c'est souvent le cas. Pour l'adjectif moyennement, mais alors dès qu'on est dans les pronoms, dans les prépositions, c'est vraiment des étiquettes qui valsent dans la tête. Enfin, je parle des étudiants qui sont en difficulté, ils ne sont pas tous dans ce cas-là, mais c'est ceux auxquels j'ai affaire. Donc voilà, ce premier module, il sert à travailler dans le détail l'accord du déterminant du groupe nominal, de manière générale. Mince. Là, on est dans l'exploration du tableau de manière plus générale. Je vais vous présenter peut-être, comme on n'a pas beaucoup de temps, le module 4 qui traite de la pronominalisation, où là, on est au-delà même de la compétence purement orthographique. Pour moi, à travers ces exercices de pronominalisation, on est aussi dans le fait de pouvoir manier la langue avec certitude, avec finesse. Je vais vous montrer un exemple. Là, il s'agit de dépronominaliser, c'est-à-dire, là, c'est observer. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. On va le faire ensemble. Donc là, j'ai une phrase, c'est « il les accueille » en bas. Il faut que je dise si oui ou non, chacune des phrases peut correspondre à cette pronominalisation-là. C'est-à-dire, est-ce que « cette responsable de l'agence accueille les nouvelles idées » c'est une phrase qui peut se pronominaliser en « il les accueille ». Non, parce qu'on a « cette responsable ». « Sabine accueille le personnel de l'agence, est-ce que ça marche ?» Non, parce que le personnel de l'agence, c'est singulier. Fabrice accueille les retardataires. Voilà, donc vous avez compris. Vous avez compris le système. Alors ça peut vous paraître très facile pour vous, mais je vous assure que cognitivement, pour des étudiants qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce degré de précision dans la langue, parce que c'est ce qu'on observe souvent, c'est de l'approximation. Là, on est obligé de travailler là-dessus. Et les étudiants, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir au bout du compte. Parce que précisément, à mon sens, ils retrouvent aussi une certaine confiance en eux, tout simplement. Voilà, je vous en montre un petit dernier. Très vite. Une fois qu'on a travaillé sur toute la pronominalisation, savoir comment... Parce que c'est vraiment très, très progressif. Là, on est dans du test. Regardez. Je l'écueille. Hop, il y a un pronom qui change. Et c'est à moi de mettre la bonne terminaison. Ce qui fait que les mots écrans, enfin, ce qu'on appelle les mots écrans, c'est-à-dire qui se situent avant le verbe, qui font que souvent les étudiants font des erreurs parce qu'ils accordent avec le mot qui est juste derrière. Mais là, on attire leur attention là-dessus. Je vais vous montrer, voilà. Là, on est dans des choses un petit peu plus compliquées encore. Là, ça ne bouge pas. Et très souvent, les étudiants qui n'ont pas encore travaillé là-dessus vont mettre un S. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous donne un tout petit aperçu. Si vous voulez en savoir plus, vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site Une éducation pour demain où il y a des petites démos. Et puis surtout à m'écrire. parce qu'on est en train d'organiser pas mal de formations qu'on nous demande de faire. Donc on est tout à fait prêt à rentrer là-dedans, d'autant qu'on a monté un Master 2 qui s'adresse à des personnes qui vont être formateurs de formateurs et qu'on envoie aussi sur le terrain. Ce sont souvent des enseignants d'ailleurs qui se recyclent dans la formation d'adultes. Voilà, donc simplement pour finir, les caractéristiques des modules Gramorto, c'est ce que je vous disais. Pour moi, les utilisateurs sont actifs et stimulés par des exercices qui sollicitent leur intelligence. Pour moi, c'est très important. Il y a une démarche inductive. Les exercices sont très nombreux. Là, je vous en ai montré trois, mais il y en a vraiment un grand nombre. Et puis, il y a aussi cette dimension grammaticale qu'on n'a souvent pas dans les logiciels d'orthographe pure. Et voilà. Donc, développer pour nous la formation des enseignants en adoptant en présentiel ce type d'approche, ces approches pédagogiques, inductives. Faire pratiquer la réécriture, pour nous, c'est fondamental pour progresser à l'écrit. Et puis, travailler sur des modules tels que Gramorto. Il y a deux, pour nous, dans la formation d'enseignants, il y a vraiment deux objectifs. Il y a non seulement leur permettre d'appréhender des nouvelles démarches pédagogiques qu'ils peuvent après utiliser auprès de leur public, mais aussi consolider leur propre connaissances linguistiques, parce qu'un enseignant qui doit enseigner la langue et qui n'est pas très à l'aise avec la langue, et c'est très souvent le cas, c'est extrêmement inconfortable et ça peut créer de la souffrance au travail. Donc ce qu'on veut aussi, c'est que les enseignants soient solides avec ça. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, j'ai eu le plaisir d'aller suivre une journée de formation et c'est vraiment effectivement une méthode extrêmement efficace. Et l'idée, en fait, ce serait peut-être que Madame Bock ou des membres de son équipe puissent participer à vos plans académiques de formation pour former les enseignants, à la fois les enseignants d'économie-gestion, mais aussi les enseignants de lettres qui interviennent dans notre BTS, à cette méthode pour qu'elle soit utilisée dans les ateliers de professionnalisation comme, évidemment, en culture générale et expression.
Alors, j'ai une question pour Madame Bock. Qu'est-ce que vous pensez de Projet Voltaire ?
En fait, c'est après avoir utilisé ce type de logiciel-là auprès de nos étudiants, donc Voltaire et puis aussi Orthodidacte, qui sont les deux grands logiciels actuellement sur le marché. Et après avoir vu ce que ça donnait chez nos étudiants, qu'on s'est dit, non, il faut qu'on fasse autre chose, ça ne marche pas. Enfin, pour nous, en tout cas, ça ne marchait pas suffisamment. On avait des étudiants qui étaient inscrits à ces logiciels, mais qui n'y allaient pas. Ou alors, quand ils y allaient, on a eu des personnes qui nous ont dit, mais en fait, quand on ne comprend pas, quand on bute sur quelque chose, on a toujours la même règle qui vient. Comme si le seul fait de regarder la règle nous permettait de comprendre. Or, ces gens-là, qui sont en difficulté à l'écrit, c'est justement parce que les règles ne leur parlent pas telles qu'elles sont formulées. Donc l'idée, c'est de basculer dans autre chose, de présenter vraiment les choses autrement, partir de l'observation, et que la règle, au final, ils se la construisent dans la tête. Et, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des résumés, et le résumé ne fait que corroborer, finalement, la règle que s'est construite l'étudiant.
Le module est payant ?
Alors actuellement, il est payant, mais on est en train de se battre pour qu'il soit gratuit. Parce que, et je pense qu'il, enfin bon, je ne peux pas m'avancer, mais c'est en pleine négociation. Bon, il n'est pas cher, hein, mais. Alors, c'est 40 euros pour 30 accès par module. Par module, ouais. Mais comme tous les modules ne sont pas encore faits, l'idée c'était aussi de toute façon d'avoir un prix forfaitaire pour l'ensemble des modules qui soit. On ne voudrait pas que le coût financier soit un obstacle à l'accès à ces modules. Donc on est en train, soit le prix va beaucoup diminuer pour l'accès aux 10 modules quand ils seront faits, dans 2 ans ils seront tous faits, soit carrément des rendre gratuits. Et ça on le saura assez vite.
Donc là on a vu des modules consacrés à l'orthographe, et j'ai quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est tout ce qui est en rapport avec la réécriture.
Oui.
Alors est-ce qu'il y a le même genre de ressources ou de démarche, parce que les étudiants vont avoir à faire le récit de ce qu'ils vont en stage d'une manière ou d'une autre, d'une manière contrainte en fait, pour faire les imprimés d'examen. Et enfin, on connaît tous ça, c'est cette expérience de faire travailler les élèves sur la version 1, puis la version 2, la version 3. Donc c'est, de la même manière, d'ailleurs, la réécriture, c'est un réflexe qui se perd, puisqu'ils font, un tweet, ils cliquent et c'est parti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le réflexe du brouillon et de revenir, et ainsi de suite. Donc, est-ce que vous avez des ressources là-dessus ? Parce que là-dessus, c'est aussi très fondamental.
Oui, tout à fait. On n'a pas de logiciel à proprement parler qui permette à l'étudiant de travailler totalement en autonomie, parce que je pense que pour cette tâche particulière qui est la réécriture, rien ne vaut l'interaction. Par contre, on forme les enseignants à commenter les textes qu'ils ont sous les yeux, de manière à ce que l'étudiant derrière ait des billes pour pouvoir réécrire son texte correctement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler la correction, l'évaluation formative de ces textes, de manière à ce que les étudiants puissent les reprendre. Et la réécriture, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne va pas de soi, qui n'est pas forcément une pratique intuitive chez les étudiants. L'idée de faire un brouillon, ça ne plaît pas. Mais par contre, quand on les fait entrer dans ce processus où ils voient eux-mêmes la qualité de leur écrit augmenter, et ils voient aussi que l'enseignant les a bien lus et leur a fourni des suggestions qui leur permettent à eux de rebondir, là, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc c'est plus la formation d'enseignants à l'évaluation qu'un logiciel tout fait, ça n'en a pas. Enfin, on n'a pas de ressources électroniques particulières, mais peut-être qu'il en existe d'ailleurs, je ne sais pas. Donc ça se fait par mail, ça, à distance, et de manière individuelle.
Merci, merci beaucoup, merci vraiment beaucoup.